Et bonjour à tous. Eh bien, si vous êtes ici en visite à cause des vacances, on sait qu'on se visite pendant les vacances. J'ai eu la joie d'avoir ma fille, Katia, de Fermont, 20 heures de route, c'est assez loin. Ils viennent une fois par année, ils font le tour, la tournée de toute la famille la semaine dernière, donc ils sont venus chez nous pendant quelques jours. Alors, si vous êtes ici, vous êtes en visite, on vous salue. On aimerait saluer ceux qui nous écoutent par Internet aussi. Il y a des gens qui nous écoutent un peu partout. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, et que vous avez des questions sur l'Église, n'hésitez pas à donner votre nom à la fin au kiosque. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, pour la première fois, il y a un petit cadeau qui vous attend, il n'y a pas d'attache, il y a un petit cadeau, vous allez au kiosque, on va vous mettre un beau petit cadeau. Mais si vous avez des questions sur l'Église, vous voulez connaître un peu ce qu'on croit, ce qu'on fait ici, la vision ici de cette Église, bien, vous avez juste à aller au kiosque aussi et donner votre nom, vos informations, puis ça va nous faire plaisir de vous contacter, puis vous donner un peu d'informations. Eh bien, on parle beaucoup ces temps-ci, et certainement ça fait des manchettes de tous les journaux à travers le monde entier, c'est la Grèce, et c'est surtout pour des raisons économiques, évidemment, mais la Grèce est aussi connue pour ses beaux paysages, c'est tout à fait magnifique comme paysage, on n'a pas eu l'occasion nous-mêmes d'aller visiter, mais on a vu plusieurs photos, et c'est vraiment beau, c'est vraiment une place à aller en vacances, mais aussi la Grèce est reconnue pour son Olympique, vous savez, il y a quelques années, une dizaine d'années, un peu plus. Il y avait les Jeux en 2004 et des Olympiques. Et c'est vraiment là que certains champions et sportifs se sont démarqués. Certainement Michael Phelps, cet Américain-là, ce nageur qui s'est tout à fait remarquer, qui est connu à travers le monde maintenant pour ses records avec toutes ses médailles d'or. Mais il y a un autre sportif qui s'est particulièrement démarqué, non pas pour sa médaille d'or, mais vraiment pour un incident qui s'est produit, quelque chose de tout à fait unique. C'est le marathonien brésilien Vanderlei de Lima. Aucun autre Brésilien ne s'était rendu aux Olympiques, surtout pour des marathons plutôt, comme marathonien, pour aller chercher une médaille jusque-là. Alors, il était vraiment la vedette et l'espoir de tout le pays, de tout son pays. Il avait tous les talents et le potentiel pour le faire. D'ailleurs, jusqu'à 38 kilomètres, rendu à 38 kilomètres, il restait juste quelques minutes ou même secondes, quelques minutes avant d'arriver à la fin, vraiment un champion. Il devançait déjà par 20 quelques secondes ceux qui le suivaient. Là, c'était vraiment l'espoir. Il était à quelques secondes, minutes de remporter la médaille d'or. Il avait une bonne avance sur les autres. On parle tout de même d'un marathon qui était particulièrement difficile, un parcours très difficile là-bas et à Athènes. Et les gens déjà, c'était l'ovation, les cris, les drapeaux qui s'agitaient. Et c'est vraiment particulier, c'est rare dans l'histoire qu'il y a des moments comme ça où on met nos arrière-plans différents, nos différences de côté et on s'unit pour célébrer le champion. Déjà là, les cris étaient là, les ovations, les drapeaux qui s'agitaient, alors qu'il était évident, il avait une bonne avance sur les autres, qu'il allait remporter la victoire, qu'il allait avoir la médaille d'or. Et tout d'un coup, tout bonnement comme ça, un incident bizarre, inexplicable, il y a quelqu'un, un excentrique, qui sort de la foule, qui se jette dessus, littéralement, le prend pour essayer de le sortir, pour l'emmener dans la foule. Heureusement, il n'a pas été blessé, mais ça a été un retard assez important pour se faire devancer par un Italien, un Américain. Mais qu'est-ce que tu fais dans ces temps-là? Il aurait pu se décourager, lancer la serviette. Il était à terre. Il y a un Grec qui l'a aidé à se relever, puis il a pris sa concentration, puis il est reparti à courir, imaginez, pour finir troisième, et il a gagné la médaille de bronze. C'est phénoménal, il s'est démarqué, mais il s'est démarqué non pas juste pour son talent, et certainement c'est un champion, c'était celui qui devait avoir, s'il n'y avait pas eu d'incident, la médaille d'or, mais il s'est surtout démarqué pour son attitude, pour sa ténacité, et surtout son attitude. Parce qu'après la course, on est allé le rencontrer, on a fait une entrevue avec lui, et il a dit, écoutez, je n'étais pas pour pleurer tout le temps, là, puis je pleurais pas là-dessus tout le temps. Il dit, c'est vrai, ça m'a déconcentré pendant quelques secondes, mais après tout, il dit, c'était tout un marathon difficile, puis si tu dis une médaille d'or, c'est quand même correct. hein? Et puis, il a eu tellement une belle attitude, une attitude tellement inspirante que non seulement il s'est mérité la médaille de bronze, mais il a dit ceci, dont le Comité international olympique a décidé de lui décerner la médaille Pierre de Coubertin, juste à cause de son attitude, récompensant un athlète pour son fair play et son esprit sportif. Imaginez gagner une médaille pour ton attitude. Eh bien, exactement, ça a été très inspirant. Voici un champion qui a fini en beauté malgré les obstacles. Et moi, c'est de ça que j'aimerais vous parler ce matin et la semaine prochaine. On va voir 5 principes d'ici la semaine prochaine. Comment finir en beauté? Comment mener notre vie chrétienne de sorte qu'on puisse arriver au bout de ligne, au bout de ce marathon de la vie chrétienne en beauté? Qu'est-ce que nous pouvons adopter aujourd'hui comme attitude qui nous permettra finalement d'arriver jusqu'au bout et finir en beauté? Et c'est ça qu'on veut regarder. On va regarder 5 principes ce matin et dimanche prochain. On va se limiter qu'à 2 principes ce matin et on va poursuivre la semaine prochaine. Comment mener notre vie chrétienne de manière à finir en beauté? Il y a un exemple qui nous inspire, certainement. Tout comme ce Brésilien, c'est une inspiration. On a de ces personnages, ces héros dans les Écritures qui nous inspirent. Et certainement, une personne qui se démarque dans les Écritures, il y en a eu plusieurs, mais un qui se démarque certainement dans les Écritures, un homme de Dieu, c'est l'apôtre Paul. Voici un homme qui a fini en beauté sa vie chrétienne. Et pourtant, mon ami, quelle péripétie, quelle aventure, quels obstacles, quelle épreuve, obstacle après obstacle, mais on voit cet homme qui finit en beauté. Alors, j'aimerais bien vous lire juste un passage. C'est pas le passage sur lequel nous allons nous arrêter ce matin. C'est vraiment juste comme introduction. C'est dans Acte 28. J'aimerais vous lire ce passage. Acte 28, 30. Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Les derniers chapitres du livre des Actes portent sur Paul et ses souffrances, en fait. Le livre des Actes termine là-dessus. Ça va vraiment mal à ce point-ci dans la vie de Paul et son ministère de Paul. Tout va mal vraiment chez Paul au cours de ces derniers chapitres du livre des Actes. C'est un peu comme ce marathonien, alors que les derniers kilomètres, là, ça allait vraiment pas bien. Et c'est ce qui arrive chez Paul. Paul est faussement accusé. Il pense proche de se faire tuer. Il est emprisonné. Il en appelle à Rome pour avoir un procès juste. Alors qu'il est dans le voyage, qu'on le transporte par bateau pour se rendre à Rome, à son procès, sans savoir s'il va mourir au bout du compte, s'il sera exécuté après ce procès-là. Alors qu'il est en voyage pour se rendre là, sans savoir ce qui l'attend, le bateau a fait naufrage. Ça va vraiment mal. Ça peut pas aller plus mal. Tu sais, quand ça va mal, ça va mal. Il me semble que ce serait le temps pour Paul de tout laisser tomber, de dire, hey, ça a pas de bon sens. Moi, ça vraiment, là, je suis pas fait pour ça. Hein? Il y en a d'autres qui diraient ça. C'est pas vrai? Il me semble que je suis pas fait pour ça. Eh bien, non, c'est pas ce que Paul fait. Paul continue, retrousse ses manches, il est dans le bateau, débarque, c'est le naufrage et tout ça. Il continue, il se rend à Rome. Et là, il n'est pas placé dans une cellule, mais il est placé dans une maison sous surveillance. C'est une maison qui est louée et il peut recevoir des invités comme il veut. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est là à se décourager puis à se laisser aller? Qui serait tout à fait humain et compréhensible? Non, il continue, imaginez, dans cette maison, continue à prêcher l'Évangile, il poursuit sa mission. Imaginez, il poursuit sa mission. Et ça, c'est la fin du livre des Actes, termine en disant, il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne Jésus-Christ, avec quoi? Avec timidité, après avoir tous les obstacles qu'il a eus, avec réticence, hésitation, avec gêne, pas du tout. Il prêchait enseignait ce qui concerne Jésus-Christ avec pleine assurance. Et dans cette période de 2 ans, c'était tranquille. Et ça, c'est la fin du livre des Actes. Ça se termine assez brusquement, bizarre. On ne nous dit pas s'il y a eu un procès ou comment son procès s'est déroulé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à l'apôtre Paul? Bien, en fait, l'auteur du livre des Actes, qui est Luc, nous donne un indice, nous aide à comprendre, surtout pour ceux qui comprennent, à cette époque-là, les gens comprenaient bien le contexte historique. Mais il y a un homme quand même, si nous, on est plus loin de ça, il faut un peu reculer dans le passé, il y a un dénommé Brian Rapsky, qui s'est spécialisé vraiment dans l'arrière-plan tout historique du livre des Actes. Il a écrit 5 tomes, mais particulièrement le 3e nous intéresse pour nous aider à comprendre justement ce qui s'est passé là à cette époque-là. Surtout d'ailleurs, le 3e volume s'appelle le livre des Actes et la détention romaine de Paul. Maintenant, voici ce que l'on comprend de ces 2 ans de prison. Une fois arrivé à Rome, il y avait une période légale où on gardait ceux qui attendaient le procès, on les gardait pendant une période de 2 ans. C'est une période légale, ça. Et la raison est bien simple, c'est qu'il y avait des gens, les accusateurs, les plaignants, ceux qui venaient finalement pour l'accuser, devaient voyager, et parfois de très loin. Par exemple, dans le cas de Jérusalem jusqu'à Rome, on parle quand même d'un voyage de 2000 quelques kilomètres, c'est assez loin. Donc, on avait cette période tampon où le prisonnier était placé comme sous surveillance. Il y avait une certaine liberté de recevoir. Il reste dans la maison. Il y en avait plusieurs, justement, à Rome, à louer. Il reste là. Le prisonnier attend son procès. Donc, il n'est pas déclaré coupable, ni finalement non coupable. On le garde là en attendant le procès. Et ça donne le temps pour les gens de se diriger, de voyager, ceux qui l'accusaient, et d'emmener, de bâtir leurs preuves. D'accord? Et ça, c'est une période de 2 ans. Luc nous donne un indice maintenant, nous aider à comprendre quelque chose. Il va dire, il va ajouter un petit détail. Il dit, Paul est resté pendant 2 ans au complet. En d'autres mots, personne ne s'est présenté. C'est une façon de nous laisser entendre, finalement, que personne ne se serait présenté au cours de ces 2 ans-là. D'accord? Et qu'il aurait été au bout de ligne libéré. Et c'est ce qu'on peut comprendre. Et on peut comprendre, parce que ces accusateurs ont déjà essayé de l'accuser devant 2 Romains, puis c'était pas fort l'affaire. Par exemple, on lit dans Actes 25, ce qui suit, il dit « Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. » Verset 27, « Car il me semble, » et là, c'est vraiment la réaction là, de ce Romain, de cette autorité, « Il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. » En d'autres mots, à la lumière de toutes les accusations qu'on apportait, c'était tellement ridicule que finalement, il arrive à la conclusion que lui n'était pas vendu. Là. Il n'était pas convaincu pendant tout que Paul était coupable. Il disait, « Franchement, je trouve ça absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. » Et non seulement cela, c'était un affront à la cour romaine d'apporter des fausses accusations. C'était une insulte, toujours comme aujourd'hui d'ailleurs. Et là, le chapitre 26, verset 30, dit ceci, poursuit, « Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent, et en se retirant, ils se disaient les uns les autres. » Après avoir entendu le cas présenté par les accusateurs, ils arrivent à la conclusion, après avoir entendu ça, ils disent, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou même la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. Et là, tu tombes dans le système et là, finalement, ils doivent le conduire, le reconduire. En d'autres mots, si ça n'avait pas été de ça que l'apôtre Paul a fait appel à se faire descendre, se faire défendre par un procès qu'il calculait pour être plus juste à Rome, il aurait été déjà là libéré. Mais Dieu s'est servi même de ça. Alors que Paul a pu prêcher même à Rome et tout ça, et ça a été tout un ministère. Alors, la cour romaine voyait ça vraiment comme une insulte, vraiment, d'avoir des fausses accusations. Alors, ce qu'on apprend ici, c'est que personne, donc, ne se serait rendu à faire ce gros voyage pour accuser l'apôtre Paul, parce que finalement, ça tenait pas, c'était pas solide. Aller faire un gros voyage quand tu t'es déjà fait revirer de bord, ça avait pas de bon sens. Donc, il aurait été relâché. D'ailleurs, c'est ce que la tradition raconte. On apprend que l'apôtre Paul aurait continué son ministère pendant même quelques années, qu'il aurait été fidèle jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter de nouveau. Et là, finalement, à la fin de sa vie, il aurait été exécuté. La fin de sa vie se trouve donc dans 2 Timothée. Et là, j'aimerais vraiment vous inviter à tourner avec moi. La deuxième lettre de Timothée, et on va lire ensemble les chapitres, le chapitre 4, versets 6 à 22. Deux Timothée, chapitre 4, et on va commencer la lecture au verset 6. Pour ma part, en effet, je suis déjà, et c'est l'apôtre Paul qui parle finalement, il dit, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent, et il est parti pour Thessalonique, tandis que Crescent est allé à Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Par ailleurs, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. Méfie-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Salut Priscilla. Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudent, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Eh bien, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voici ici dans les moments, ici dans ce passage, nous voici dans les derniers moments de la vie de Paul. Et comment l'apôtre Paul a-t-il fini sa vie? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, Paul a fini en beauté, malgré les embûches, les péripéties, les rudes épreuves, les critiques, les fausses accusations. Paul est resté ferme jusqu'à la fin. Et moi, ça m'inspire. Moi, ça m'inspire, ça. Ça m'édifie. Il est resté ferme jusqu'à la fin. Puis on apprend qu'en regardant les derniers moments de l'apôtre Paul, on va apprendre comment il a réussi finalement à finir en beauté. Quels étaient les principes qu'il avait acquis dans sa vie, qu'il avait adoptés dans sa vie, quelle était sa vision de la vie chrétienne qui lui a permis finalement d'arriver jusqu'au bout, au bout du marathon, de ce long voyage, cette aventure, en restant fidèle au Seigneur malgré toutes ses embûches, ses critiques, ses fausses accusations. Il a fini en beauté. Alors, on va voir ces 5 principes-là d'ici la semaine prochaine et qui vont vraiment nous aider. Et le premier principe que l'on voit, c'est que pour finir en beauté, on a besoin de réaliser que la vie est un combat. Maintenant, on cherche souvent le confort. On n'aime pas trop être dérangé. On aime le cocooning. On aime ça, ne pas être trop dérangé. Mais mes chers amis, on ne sera pas dérangé au ciel. Mais peut-être bien dérangé, si tu veux le mettre comme ça. Mais ici, c'est un combat spirituel et nous avons, si nous voulons finir en beauté la vie chrétienne, si nous voulons réussir notre vie chrétienne, eh bien, mes chers amis, il faut réaliser très tôt, très vite dans notre vie chrétienne que la vie chrétienne est un combat, c'est une lutte, c'est un combat. Regardez comment Paul va décrire sa vie. Regardez les images qu'il va prendre. Dans 2 Timothée 4, 6, au verset 6, le passage qu'on vient de lire, voici ce qu'il dit. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Imaginez, c'est comme ça qu'il décrit sa vie, là, sa vie chrétienne. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Alors, il y a des gens à qui tu demandes, comment c'est ta vie chrétienne? Ah, c'est super, c'est super. L'apôtre Paul, il disait quoi? Il dit, c'est un combat. C'est une lutte. Puis il va continuer, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. Et littéralement, c'est une course à obstacles. Il va y avoir des obstacles, des gens bêtes en chemin, tout ça. Il dit, j'ai gardé la foi. Le mot garder ici, cette idée de lutte, un combat aux Olympiques, une bataille, une boxe, la boxe comme. Imaginez comment il décrit la vie chrétienne. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Paul regarde sa vie et il pense aux meilleures images possibles. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors l'apôtre Paul va chercher de toutes les images qu'il peut avoir dans sa tête, l'image qui convient le mieux à décrire sa vie chrétienne. C'était quoi? C'était un match, une course à obstacles, une bataille, une lutte. Hey, hein, comment t'aimerais ça faire du porte-en-porte, parler de Jésus, puis dire, hey, aimerais-tu ça, croire à Jésus-Christ, passer ta foi en Jésus-Christ? Voici ce qu'il t'offre. Une vie difficile, plein d'obstacles. C'est une course, c'est une bataille, c'est une lutte. je sais pas s'il y aurait beaucoup de conversions, hein? Mais Paul dit, c'est ça, la vie chrétienne. Il y a des gens qui viennent au Seigneur, puis ils disent, ah, moi, je viens au Seigneur parce que je vais être plus heureux. Puis mon ami, il vient au Seigneur, puis il me semble que tout leur tombe dessus, puis ils sont plus malheureux qu'ils n'ont jamais été. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont laisser. Parce qu'ils s'imaginent que le ciel, c'est pour aujourd'hui. Non, absolument pas, le ciel, c'est pour tantôt. Quand le Seigneur va revenir. Amen. Hey, vous n'êtes pas pire. Vous n'êtes pas pire. Hey, hey. Quelle description de la vie chrétienne. Et mes chers amis, si vous voulez finir en beauté, il faut tout de suite adopter ça. De dire, oui, OK, c'est un combat. Je vais l'amener, le combat, de façon intentionnelle. Paul regarde sa vie et il dit, combat, course, lutte. La vie est un combat, la vie chrétienne. C'est une course, c'est une lutte, c'est une bataille. Trois mots. Et ça vient en passant des Olympiques. C'est des termes qu'on retrouvait dans les Olympiques, c'est-à-dire des sports aux Olympiques. Maintenant, on va se demander, mais oui, mais c'est difficile. Oui, c'est vrai, la vie est difficile. On entend ça souvent, la société va dire ça, il dit, ah, c'est la vie est difficile. Mais Paul ne parle pas de ce genre de vie difficile-là. C'est pas ça qu'il a en tête. On lutte contre quoi, nous, les chrétiens? Bien, premièrement, tu luttes contre des forces surnaturelles. Effectivement, tu es impliqué. Dès que tu dis oui à Jésus-Christ, tu viens de commencer un combat spirituel. Tu viens de déclarer une guerre contre le diable. Parce que nous lisons justement dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les princes, des ténèbres. Qui veut pas que tu avances dans ta vie chrétienne? Le gars qui sort de la foule et vient enjamber le Brésilien qui allait gagner la médaille d'or. Le diable est comme ça, alors que tu ne t'attendais pas pantoute, que tu penses que tout va bien, il va sortir de la foule, il va te sauter dessus, puis il va vouloir te donner une jambette, t'arrêter, puis te ralentir, puis te décourager. Ça, c'est le diable. Tu es en train de lutter contre ça. Non seulement ça, tu luttes contre ta propre chair. Nos chairs ont des désirs contre les désirs de l'Esprit-Saint. Tu te bats contre ça, tu luttes contre tes propres péchés, tes propres tentations. Tu luttes contre ta propre ignorance. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et combien de fois les gens vont venir me voir et ils sont troublés, ils souffrent parce qu'ils ont adopté une façon de penser qui est une pensée erronée, qui n'est tout à fait pas, qui n'est absolument pas biblique, mais ils pensent que ça l'est. Il y a des erreurs qu'on va adopter comme ça. Ce sont des mensonges qu'on adopte et qu'on entretient. Mais dans le fond, c'est pas vrai. C'est pas dans les Écritures. Et on va souffrir à cause de ça. Par exemple, il y a des gens qui pensent, sont convaincus que Dieu ne les aime pas. Parce qu'il y a eu des obstacles et des épreuves dans leur vie. Ils sont convaincus, ils vont te le dire. Puis ils vont souffrir. Mais c'est absolument faux. Dieu l'a prouvé. En allant à la croix, c'est la meilleure preuve qu'il pouvait te faire pour te prouver que c'est faux, c'est un mensonge. Alors lorsque le doute vient, cette pensée erronée surgit dans ton esprit que Dieu ne t'aime pas parce qu'écoute, ça va tellement mal dans ta vie. Regardez l'apôtre Paul. Ça allait vraiment pas bien. Mais ça, c'est faux. C'est un mensonge. Alors, on lutte contre notre ignorance. On lutte aussi contre nos échecs. Il n'y a rien de plus décourageant que d'échouer. Tu essaies de quoi, puis ça ne marche pas. Tu as des échecs. Hey, c'est écrasant, ça. Tu essaies, puis tu tombes. Mais tu sais quoi? il faut que tu te relèves. Tu continues. Puis tu continues à livrer ce combat-là, parce que c'est un bon combat, dit Paul. Regardez bien ce que Theodore Roosevelt a dit dans un discours qu'il a livré justement, il l'a prononcé à Chicago, il y a bien des années, en 1899, sur l'effort. Il dit, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas la critique qui compte, ni l'homme qui souligne la manière dont l'homme fort est tombé ou en quoi celui qui œuvre aurait pu mieux faire. Le mérite revient à la personne qui se trouve elle-même dans l'arène, dont le visage est maculé de poussière, de transpiration puis de sang, qui lutte vaillamment, qui se trompe, oui, et qui faillit encore et encore, car l'effort engendre toujours erreur et faute, qui tente réellement d'accomplir l'œuvre, qui connaît le grand enthousiasme, le grand dévouement, et qui s'investit dans une cause digne, qui, si au pire il échoue, essuie un échec, au moins en osant grandement. Bien dit. Il vaut beaucoup mieux, poursuit-il, oser des choses grandioses et remporter de glorieuses victoires, même en essuyant parfois des échecs, que de se joindre au rang de ces pauvres esprits qui ne connaissent ni joie ni souffrance réelle du fait qu'ils vivent dans une grisaille privée de victoires et de défaites, parce qu'il va y en avoir. Alors oui, on va avoir les échecs. On va tomber, on va avoir les échecs. Mais il faut se relever, on continue. Plusieurs parmi nous, là, plusieurs, les cheveux gris, en tout cas certainement, peut-être les cheveux poivre et sel. Je ne sais pas si les jeunes connaissaient le sportif, l'ancien joueur de tennis, Jimmy Connors, on le connaît, plusieurs en tout cas, a été numéro un mondial pendant 268 semaines. Il a remporté 149 titres. Il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps. Voici comment il voit les échecs. Il dit, bien sûr, il est possible que l'adversaire soit coriace, qu'il vous ait battu la dernière fois et que dernièrement, vous ne jouiez pas très bien. En d'autres mots, ça ne va pas bien tes affaires, ça se peut. Dès que vous ruminez ces pensées, vous êtes mort. J'approche chacun de mes matchs avec la conviction que je vais gagner. C'est tout. C'est comme ça. En d'autres mots, sois conquérant. Vise la victoire. Et oui, l'adversaire est coriace. Il vous a battu la dernière fois. La tentation qu'il vous a lancée, là, ça a marché, ça vous a fait tomber. Il vous a eu. Vous êtes tombé. Et c'est possible qu'en ce moment, tu ne sois pas ton meilleur. Mais si tu arrêtes pas de penser à tes défaites, tes faits. Appliquer la vie chrétienne, et c'est l'image que l'apôtre Paul va prendre, celle d'un athlète, c'est qu'il faut approcher chaque match avec la conviction que tu vas gagner. Tu vas surmonter cette épreuve. Tu vas avoir la victoire sur la tentation. Paul le dit en d'autres mots, mais ça revient à la même chose. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez! Est-ce que j'entends tout le monde le dire ensemble? Courez! De quoi es-tu, ça? Hein? Cours de manière à la remporter. Dis-le à ton voisin, là. Dis-le à ton voisin. Cours! Amen. Cours de manière à la remporter. C'est ça que l'apôtre Paul dit. D'où l'importance de s'entraîner spirituellement, comme un athlète, comme le soldat, comme la vie d'un comme quand tu te lis dans un combat. Maintenant, il faut comprendre que lorsque Paul parle de la vie difficile, il n'est pas en train de parler de la vie difficile nécessairement que la société va nous parler. La société va nous parler comme ça. Elle va parler, la vie c'est difficile. Tu sais, tu rencontres des gens, tu vas dire, la vie c'est difficile. Et c'est vrai, c'est sûr, ça va travailler tout ça, tous les matins, puis là tu roules. Et c'est vrai, la vie est difficile, tu vas avoir des déceptions dans la vie. Il y en a des déceptions. Moi je me rappelle, il y a plusieurs années, une fille avait eu une méchante déception. Lorsqu'un jeune homme, un célibataire, elle était célibataire. Vous savez comment c'est, célibataire? On veut rencontrer quelqu'un, hein? À moins que vous êtes particulièrement doué. Au célibat, Il y a des gens qui veulent rencontrer des gens. Donc, moi, une fois, il y a une fille qui s'en vient me voir en pleurant. On était dans un camp de jeunes et tout ça. Puis, la fille vient me voir, c'est une belle jeune femme, elle vient me voir, elle dit, « Ah, Normand, puis elle pleurait, elle pleurait. » Elle dit, « Tu sais pas ce qui m'est arrivé? » Elle dit, « Ça n'a pas de bon sens. » Elle dit, « Là, il y a un gars qui est allé la voir. » Puis lui a dit, un chrétien, je ne sais pas s'il y a des célibataires qui font ça, là. Mais il y a un célibataire qui est allé la voir, puis il a dit, « Dieu m'a montré que tu étais pour être ma femme. » Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ça, attends qu'il me le montre. Non, ben, là, elle aimait Dieu, elle voulait bien faire, elle voulait être correcte, puis tout ça. Tout d'un coup, que c'est une prophétie, tout d'un coup que... Puis le gars était vraiment pas à son goût. Non, mais vraiment pas là, à son goût. C'est pas, même nous-mêmes, on connaissait les deux, le tempérament des deux, la personnalité des deux, là, c'était comme... Ouf, ça, c'est un miracle, si ça marche. Tu sais, il y a des... En tout cas, hey, qu'est-ce que je fais avec ça? Elle pleurait, elle était tellement déçue. Elle dit, non, mais ça se peut pas. Regardez bien ce qu'elle disait. Puis elle était déçue. Elle était déçue. Elle dit, moi qui prie pour avoir quelqu'un dans ma vie, puis Dieu me répond comme ça. Oh! Elle était déçue. Elle comprenait pas. J'ai dit, fais-toi-en même pas. J'ai dit, fais-toi-en même pas avec ça. Regarde. Il faut que toi aussi tu sois convaincu. En ce moment, es-tu convaincu? Non, absolument pas, je voyais savoir un peu. Parfait. Ça, c'est évident. C'est absolument évident. C'est clair. En ce moment, en tout cas, c'est pas la volonté de Dieu que tu te mets avec Dieu là. OK? Un autre a été déçu, par exemple. L'autre, il est convaincu que Dieu lui avait montré cette belle jeune femme, en passant toutes les autres célibataires pour la sortir avec. Là. Fait que toutes les autres célibataires étaient convaincus que ça pourrait être la femme de leur vie, ça. Mais lui était convaincu que ça pourrait être la femme de sa vie. Est-ce qu'il était déçu? Oui, il était déçu. Viens-t'en, on va se parler. Ah, c'est pas facile, ouais. C'est dur, la vie. Viens-t'en. Lui était déçu. Là, on parle pas de ce genre de déception-là qui va nous arriver dans la vie quand on n'a pas vraiment ce qu'on voulait. On parle pas de ça ici. Paul ne parle pas vraiment de ça. D'ailleurs, même les combats et les luttes dont il parle, c'est des luttes que la société se foutrait comme l'an 40. Elle lutterait pas contre ces choses-là que nous, on lutte, envers lesquelles nous autres, on va lutter. La vie chrétienne est un combat qui est intentionnel. On parle pas ici de la vie est difficile, il y a des accidents qui nous arrivent. Non, on parle ici d'un combat qu'on décide, oui, je vais mener ce combat-là. Voyez-vous? C'est un combat intentionnel, la vie chrétienne. Oui, je vais me battre contre le péché. Oui, je vais me battre pour devenir un meilleur mari. Je vais me battre pour devenir un meilleur parent. Une meilleure épouse. C'est intentionnel. Je vais devenir de plus en plus comme à l'image de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va nous aider. Mais c'est intentionnel, il y a un combat là que je décide, je dis oui, je veux mener ce combat-là pour la gloire de Dieu. Alors, la vie chrétienne lutte contre des choses auxquelles une bonne partie de la société ne lutte même pas. Et c'est pour la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens qu'on a besoin de s'entraîner comme un athlète afin de faire face à ces combats-là, le combat contre la chair, contre les forces du mal, contre notre ignorance, c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier la parole de Dieu, pour corriger ses pensées qui sont parfois si erronées. Puis on a besoin de connaître Dieu aussi. Un athlète, ça va faire quoi? Un athlète, pour se rendre là, un athlète dit constamment non. Constamment non. Toujours en train de dire non. Non, je peux pas. Non, je peux pas aller avec vous autres. Je peux pas. Écoute, faut que je me couche à telle heure. Moi, je me lève à 4h demain matin. Mais on va m'entraîner. C'est là le principe, cette discipline, et Paul est en train de faire référence, évidemment, à la discipline spirituelle que nous avons besoin, nous aussi, pour nous entraîner, nous former, afin justement de finir en beauté, cette vie chrétienne, qui est un combat, une lutte. Parce que vous savez, on lutte contre ses forces, on lutte contre notre chair. Et vous savez, nous sommes dépravés, on a une nature pécheresse. On est tordu à l'intérieur. Regardez Martin Luther, comment il le définit dans son commentaire sur Romains. Voici ce qu'il dit. Il dit, en raison du péché originel, notre nature maintenant souillée, tordue et croche est si tournée sur elle-même. On devient tellement égoïste, c'est ça qu'il est en train de dire. Nous sommes si tournés, notre nature est tellement tournée sur elle-même que tout ce qu'elle fait, elle le fait pour son avantage. Même, il va jusqu'à ce point-là, Martin Luther, même dans sa recherche de Dieu. Donc, ça, c'est notre nature qui est dépravée, qui est souillée, tordue, qui est vraiment tordue, qui a pris une mauvaise tangente, est tordue. Elle veut toujours tout tourner vers notre avantage, le moi, satisfaire le moi. Si bien que si tu ne livres pas un combat, c'est là que ça va t'emmener. Au naturel, à cause de ta nature qui est dépravée, au naturel, si tu ne livres pas cette lutte, au naturel, tu vas aller là. C'est là que tu vas aller. C.S. Lewis dit ceci, il dit, « Chaque fois que vous agissez par égoïsme, vous placez une marque sur votre âme. Et cette marque fait en sorte que ce sera encore plus facile la prochaine fois d'être égoïste. » Alors, la vie chrétienne est une lutte. Paul le savait. Il était intentionnel à mener ce combat-là. Alors, pour finir en beauté, menons cette lutte avec courage, discipline. Parce que rappelons-nous que la vie chrétienne est un combat et c'est intentionnel. Il faut décider chaque jour que je sors de ma maison aujourd'hui, ce matin, pour aller travailler. Je rentre dans un combat spirituel. Je vais lutter contre ces tentations qui veulent me faire tomber. Alors non seulement on a besoin d'être intentionnel à mener ce combat-là, mais on a besoin également de réaliser, de savoir, d'avoir une vision différente même de la fin, de la mort. Que la mort, c'est une aventure. On a besoin de tout de suite, aujourd'hui, même si vous êtes en pleine santé, même si vous avez 20 ans, vous ne pensez pas ça du tout, mais vous avez besoin tout de suite, aujourd'hui, d'adopter cette vision de la mort, la théologie de la mort, en quelque sorte. D'avoir une bonne vision, une vision biblique de la mort. Et que la mort est une aventure pour l'enfant de Dieu. Regardez bien ce que Paul dit, 2 Timothée 4, 6, il dit, « Le moment de mon départ approche. » Le mot départ qu'il emploie, que Paul emploie, est vraiment inspirant, vraiment intéressant. C'est un mot qu'on va retrouver aussi dans Philippiens. Il va dire la même chose dans Philippiens. C'est le même concept de la mort que Paul entretient dans la lettre aux Philippiens. Voici ce qu'il dit dans Philippiens, chapitre 1, verset 21. Il dit, « Christ est ma vie et mourir représente un gain. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » Parce que lui, il était comme en procès, il attendait son procès, son exécution, il ne savait pas qu'est-ce qu'il était pour la sentence qu'il était pour recevoir. Il dit, je suis tiraillé des deux côtés. Il dit, j'ai le désir de m'en aller d'être avec le Seigneur, ce qui de beaucoup est le meilleur, évidemment. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. En d'autres mots, un ou l'autre, je vais être heureux à servir Dieu, soit parmi vous, soit entrer dans le ciel, peut-être avec le Seigneur, un ou l'autre. Mais Paul va employer une image, un mot vraiment intéressant pour décrire son départ, le mot « départ » ici dans l'original. L'expression « m'en aller » ici dans Philippiens. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Jésus-Christ, c'est sa façon de parler de la mort. Cette expression-là va revenir dans différents contextes de la société à l'époque. Le terme « m'en aller » ou « départ » était utilisé par exemple pour des soldats. Par les soldats qui voulaient dire « démonter la tente et partir ». Vraiment une belle image du chrétien. La tente dans laquelle nous vivons est démontée à la mort et l'esprit s'en va pour être avec le Seigneur dans le ciel. Une belle image de la mort du chrétien. On servait aussi de ce mot-là pour la politique, en politique. On disait, on appliquait ce mot, ce terme, à la libération d'un prisonnier. C'est encore une belle image pour décrire la mort. Le chrétien est lié dans ses limites, les limites du corps et les tentations de la chair. Puis la mort va le libérer, en quelque sorte, de ses limites alors qu'il est lié. Les cultivateurs utilisaient aussi ce mot-là lorsqu'ils parlaient de dételer les bœufs. Paul avait pris sur lui vraiment le joug de Jésus-Christ et le ministère de Jésus-Christ sur lui. Et évidemment, à la mort, il dépose ce joug qui est léger. Évidemment, le joug avec Jésus est léger. Mais malgré cela, évidemment, il y a un fardeau qui est là. Et il dépose au pied du Seigneur lorsqu'il entre dans le ciel. Il dépose ses fardeaux. Parce qu'on se rappellera bien la description du ciel. Le peu qu'on a, ce qu'on apprend, c'est qu'il n'y aura pas de douleur, pas de souffrance. Ça va être de la joie, le bonheur. On va se servir de ce mot également pour parler d'un bateau. On détachait le bateau. On larguait les armoires. On partait en voyage. Moi, je trouve que c'est une belle image équilibrée de la mort. Parce qu'à quelque part, quand tu pars en voyage, il y a deux choses. Tu laisses des gens que tu aimes. Donc, il y a une tristesse, puis en même temps, il y a cet élément d'aventure où tu t'en vas en voyage. Donc, il y a un mix des deux. Et c'est une belle image pour décrire la mort du chrétien. D'un côté, il y a cette tristesse, parce que ceux qui te voient partir, et c'est ce qui est arrivé, dans Thessaloniciens, il y a des gens qui mouraient, tout ça, puis ils étaient tristes, il y avait un fardeau, ils étaient en deuil, et ils étaient justes d'être en deuil. Il y a une tristesse qui est là. Je pense à Éphèse, lorsque Paul va convoquer les anciens à Éphèse et leur donne son discours d'adieu, et voici la réaction des gens dans Acte 20. Après avoir ainsi parlé, Paul se met à genoux et prie avec eux tous, les anciens de la ville d'Éphèse. Et tous fondirent en larmes et se jetaient au cou de Paul. Ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne leur verrait plus son visage. Ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Il y a cette tristesse-là lorsque tu vois quelqu'un que tu aimes qui part, qui quitte. Et certainement, c'est vrai pour la mort. Et il y a un deuil à la mort, il y a une souffrance qui est là. Jésus lui-même a pleuré devant Lazare quand il est mort. En même temps, la mort est également une aventure. Il y a cet élément de découverte, on rentre dans du nouveau. Et c'était le message que Paul voulait livrer justement à des chrétiens, à l'église de Thessalonique, qui vraiment s'écrasaient, étaient écrasés par le deuil, voyant des gens qu'ils aimaient, qui mouraient. Et là, Paul va leur donner ce message dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il dit, « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Vous voyez? Paul ne leur dit pas de ne pas avoir de chagrin. Absolument pas, il ne manque pas de sensibilité ici. Oui, tu as du chagrin. Et parfois, tu as de la colère, tu as du chagrin par quelqu'un qui meurt. Et c'est correct, ça. Lorsque Jésus était devant Lazare, il y avait deux choses. Il pleurait, puis aussi il y avait de la colère. C'est des émotions qui sont tout à fait là. Et d'ailleurs, c'est correct, c'est compris. Dieu le connaît, Dieu sait. Et Jésus a la compassion pour ceux qui souffrent. Absolument. Il faut cette période de deuil. Mais en même temps, cela étant dit, il y a quand même quelque chose, il y a une aventure à travers la mort pour l'enfant de Dieu, parce que nous avons maintenant une nouvelle identité. Nous avons été adoptés, nous sommes des enfants de Dieu. C'est George Herbert qui a dit ceci à l'endroit de la mort. Voici ce qu'il a dit. Il dit, « Jadis, la mort était un bourreau, un exécuteur, mais l'Évangile en a fait un paysagiste. » Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que nous sommes en Jésus, tout ce que la mort peut nous faire est de nous rendre meilleurs. Laissez-moi vous poser une question. On est reconnu ici à Ottawa pour le festival des tulipes. D'accord? Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus beau? Un bulbe ou une tulipe? Hein? T'es-tu beau les tulipes? Magnifique, hein? Regarde les couleurs. Regarde une bulbe. Mais c'est la tulipe qui est beau, qui est belle, hein, n'est-ce pas? C'est un chef-d'œuvre. Et la vie chrétienne, c'est que tu es un bulbe. Lorsque tu rentres au ciel, tu vas devenir cette tulipe-là. À comparer la vie, comparée à ce que nous allons connaître au ciel, ça se compare comme ça. Et c'est le point d'Herbert. Nous sommes reconnus. Nous avons besoin plutôt de planter le bulbe afin qu'il nous transforme en belle tulipe. Et nous, on a besoin d'être planté si on veut devenir tout ce que Dieu a en réserve pour nous et ce que Dieu veut faire pour nous. Alors, la mort était un exécuteur, mais l'Évangile en a fait un jardinier. Juste avant sa mort, Dietrich Bonhoeffer a écrit à l'un de ses amis, il était en prison pour avoir conspiré contre Hitler. Il était sur le point de se faire pendre. Et Bonhoeffer a dit dans sa lettre, « La mort est le festival suprême sur la route de la liberté. » Et c'est comme ça qu'il faut voir la mort. Paul le dit en d'autres termes dans 1 Corinthiens 15, il dit, « Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? » C'est un peu un affront ce que Paul est en train de dire. En d'autres mots, il dit, « Hey mort, donne-moi ton meilleur coup, ton meilleur punch. Tu vas voir, je vais devenir meilleur. » Si tu essaies de me détruire, tu vas seulement me rendre encore plus fort que jamais. On n'a pas idée ce qu'on va devenir une fois rendu au ciel. Ça va être magnifique. Mais aujourd'hui, on est comme un bulbe. Je ne sais pas si vous avez lu les chroniques de Narnia, mais il y a 7 tombes, et le dernier s'appelle, s'intitule « La dernière bataille ». Après bataille et péripétie, le lion Aslan explique au personnage qu'en fait, il y a 2 Narnia. Celui qu'ils ont connu touche à sa fin, car il n'était que le reflet du vrai. On parle ici de la première terre, en quelque sorte, ce monde. Tous se rendent dans le vrai Narnia, pays d'Aslan où ils se retrouvent, où ils retrouvent leurs amis défunts. Et c'est là qu'ils vont rester pour toujours. On rapporte à la fin du livre ceci. Toute leur vie dans ce monde et toutes leurs aventures à Narnia ne furent que la page couverture et le titre. Maintenant, enfin, ils commencent le chapitre 1 de la grande histoire que personne sur Terre n'a lue. Et elle dure à toujours. Et chaque chapitre est meilleur que celui qui le précède. Ça, mes chers amis, c'est la mort pour l'enfant de Dieu. Le ciel nous attend. C'est une aventure. Alors, mettons en place, tout en place pour finir en beauté et menons ce combat de la foi, car c'est le bon combat en poursuivant notre course. Daniel Pitarel a composé un chant intitulé « Et je cours vers le but ». Et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, ce n'est pas fait de doute. Ça ne fait pas de doute, ma couronne sera éternelle. Et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu. Je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Ni à gauche, ni à droite, mais droit devant, les yeux fixés sur Jésus, dont ma foi dépend. Les doutes, les échecs seront loin derrière. Mes pas seront affermis sur le sentier, car l'Éternel me prend la main et me dirige, un pas après l'autre, plus près de la victoire. Amen. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes ici et déterminés. Nous voulons te dire que nous reprenons cette décision de mener ce combat vers la victoire. Seigneur, quelques-uns parmi nous, nous avons tombé, chuté, on se sent faible, on n'est peut-être pas notre meilleur ce matin. Mais Seigneur, on sait que avec l'aide de ton esprit, tu vas nous relever. Comme ce grec qui se trouvait, un inconnu à quelque part dans la foule, a pris cet athlète, l'a relevé, l'a aidé à poursuivre son chemin. De même, toi, ton Esprit Saint, Seigneur, nous accompagne. 24 heures sur 24, toujours avec nous, chaque jour de notre vie. Tu nous tends la main et tu nous relèves afin que nous puissions continuer la course à tes côtés. Seigneur, il y a peut-être des gens ce matin qui avaient lancé la serviette et qui ont besoin de dire, Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Seigneur, je veux reprendre le combat ce matin, je me suis laissé aller. Seigneur, je sais que tu me pardonnes. Je veux me relever et poursuivre cette course qui est devant moi, ce combat. Et oui, Seigneur, je dis amen à ce combat de la foi, car c'est le bon combat. Oh Seigneur, merci, parce que nous savons que tu nous attends là-haut. Ou tout comme Étienne qui se faisait lapider à genoux, priait, voyait le ciel, et voyait Jésus se lever pour l'accueillir au ciel. Seigneur, tu nous réserves un grand accueil. Mais en même temps, Seigneur, lorsque nous entrerons au ciel, c'est nous qui allons nous projeter dans tes bras et te remercier pour ta grâce et ta bonté, ta miséricorde et ton amour. Seigneur, je te loue. Je te loue pour la victoire qui nous est réservée. Alors, Seigneur, ce matin, on te prie, on veut abandonner le péché, abandonner tout ce qui nous freine, nous ralentit à cette course. On veut marcher avec toi pour ta gloire. Merci à l'avance, Seigneur. Au nom de Jésus.